Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika Bissimo.
Au sommaire de cette édition, les Nations Unies sont disposées à appuyer les élections de 2023 si le gouvernement en fait la demande. Annonce faite ce dimanche par le numéro 2 de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, vient d'achever aujourd'hui par Beni une visite d'un officiel d'une semaine en RDC. L'inspecteur général des finances affirme que le dépassement budgétaire n'est ni un détournement ni un acte de mauvaise foi. Jules Alinguété fait remarquer que ce dépassement arrive lorsqu'il y a paiement en urgence. Notre invité, c'est le chef de la FAO au Sud Kivu, Salif Djiré, parle du projet exécuté depuis 2018 avec le PAM et l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition et la résilience des organisations paysannes à Minova dans les territoires de Calais au Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonsoir. Les Nations Unies sont disposées à appuyer les élections de 2023 si le gouvernement congolais en fait la demande. Annonce faite ce dimanche à Beni au Nord Kivu par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des questions des opérations de maintien de la paix au terme d'une visite de 5 jours en RDC. Jean-Pierre Lacroix affirme que l'objectif est de parvenir à un processus électoral transparent qui permettra ainsi au peuple congolais de s'exprimer librement en évitant les tensions et les fractures. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Je note que le président de la République a récemment exprimé l'intention d'avoir un engagement de la communauté internationale s'agissant de l'observation du processus. Alors quelles seront les demandes à l'égard des Nations Unies? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais nous avons indiqué aux autorités de l'État qu'il y avait à la fois cette disponibilité du côté des Nations Unies, mais que nous ne nous engagerions que dans la mesure où il y aurait des demandes.
Il y aura des exigences des Nations Unies afin d'apporter tout appui.
Il y a un objectif que je vous ai indiqué. Notre objectif, c'est d'aider à un processus qui soit transparent, consensuel, qui soit organisé de telle sorte que les tensions inévitables lors d'un processus électoral soient, je dirais, contrôlées, qu'elles ne débouchent pas sur des fractures et qu'à la fin des fins, il y ait un processus, une élection, une consultation qui permette à la population congolaise de s'exprimer librement et que son choix soit reflété à l'issue de ce scrutin.
Nord Kivu encore, 14 terroristes ADF capturés lors des opérations militaires à Mwalika, en chefferie de Bachou, ont été présentés à la presse ce dimanche à Beni. Parmi eux, la femme du numéro 2 du mouvement ADF Amigo, son enfant et d'autres miliciens des différentes nationalités. Des précisions avec leur porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord. Les propos du capitaine Anthony Mwalushai ont été recueillis par Marco Marufimbo.
Nous avons présenté 14 personnes au total, combattants terroristes, et parmi eux, 6 étrangers. Nous avons présenté les Ougandais et les Ougandaises. Nous avons présenté des Tanzaniens aussi. Nous avons présenté des Congolais, des Burundais. Et c'est pour vous dire que le mal est profond, que le mouvement qui est devant nous, qui fait face à nous, c'est un mouvement terroriste au niveau international reconnu. L'épouse du numéro 2 de ces mouvements, et il y a aussi le fils du chef Amigo. Alors vous allez comprendre que quand on touche le cœur de ces grands leaders, de ces terroristes, ils ne peuvent que réagir comme ça. Ça fait mal quand d'un coup on arrête la femme et ses deux enfants. C'est pourquoi l'armée a pris de dispositions nécessaires pour empêcher ces mouvements à ne pas s'attaquer à notre population. Et voilà, le succès, c'est dû aux informations mises à notre disposition par la population que nous avons transformées en renseignements.
Non loin de là, au Sud Kivu, Ouezo Africa rend hommage aux victimes des massacres perpétrés dans cette province à l'approche du devoir de mémoire. La directrice de cette ONG, à pied d'œuvre Bukavu, plaide pour que l'histoire récente de la RDC soit davantage racontée aux élèves, et cela pour éviter une amnésie collective. Les propos de Madame Douce Namwezi ont été recueillis par Cynthia Bachizina Bizana.
On s'est dit de pouvoir appeler les différentes couches de la population, les décideurs et toutes les parties prenantes pour qu'ensemble on puisse se rappeler que les êtres que nous avons perdus ne sont pas morts en vain. Le but ultime est de voir toutes ces victimes de ces différentes atrocités rétablies dans leurs droits. Et l'approche elle est différente puisque là on met vraiment un aspect beaucoup plus culturel, beaucoup plus artistique dans cette revendication.
Tout ça c'est pour dire plus jamais ça?
Exactement. Cette initiative s'inscrit dans l'approche du devoir de mémoire et du devoir d'histoire, où on s'est dit il faut vraiment que l'histoire soit connue. Il y a ce message de révision de curriculum scolaire, par exemple, où même à l'école, les enfants n'apprennent pas leur histoire. Jusqu'aujourd'hui, on nous raconte encore l'histoire de Charlemagne. Mais le fait récent qui se sont passés en 2008, en 96, tu poses la question aux jeunes Congolais, personne n'en sait rien. Et ça, ça contribue effectivement à cette sorte d'amnésie qui devient une conséquence.
Dans un autre chapitre, le dépassement budgétaire n'est ni un détournement ni un acte de mauvaise foi. À propos tenu samedi après-midi à Kinshasa par l'inspecteur général des finances, c'était au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Jules Alinguété a fait remarquer à l'occasion que le dépassement budgétaire arrive lorsqu'il y a paiement en urgence. Il s'est confié à Paul Matendo.
Je voudrais vraiment que les gens retiennent une fois pour toutes que le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion. Mais comment on arrive à un dépassement budgétaire? La loi a prévu que toute dépense doit passer par un circuit. Le circuit, c'est le gestionnaire, celui qui a besoin d'effectuer la dépense. Commence par engager la dépense. On arrive au budget. Le budget liquide. La liquidation consiste à vérifier si la dépense que vous demandez qu'on puisse faire a un crédit disponible. Si le crédit n'existe pas, le budget ne laisse pas passer la dépense. Ou le budget va procéder au réaménagement. Alors, lorsque le budget autorise par la liquidation, le ministre des Finances paye. Les dépassements budgétaires nous arrivent avec ce que nous appelons en finances publiques les paiements en procédure d'urgence. Mais ce n'est pas un détournement.
Et puis, un incendie s'est déclaré hier samedi au quartier Pakadjouma, dans la commune de Limété, ici à Kinshasa. Selon plusieurs sources, une femme aurait oublié une bougie allumée dans sa maison, ce qui a du coup enflammé une bonne partie du quartier. Le récit de Paul Matendo.
Selon la police qui est arrivée sur place tôt ce matin pour les premières enquêtes, une cinquantaine de cases partaient en fumée sur une distance de 100 mètres. Des victimes de cet incendie disent avoir tout perdu. J'ai gagné 6 millions de francs congolais après avoir joué au jeu de Paris Foot. Il m'est resté 3 millions. Maintenant, mon fils n'a ni habit ni cahier. Je ne sais quoi faire, explique cette victime. Dorcas, vendeuse de mangue, en appelle à l'intervention des autorités du pays pour venir en aide aux victimes. Tu peux aller voir là où moi je vends les mangues. Il n'y a plus rien à récupérer, plus rien. Nous demandons seulement à l'État de secourir les habitants de ce quartier Pakadjouma. Ce quartier est installé le long de rail, une propriété appartenant au ministère des Transports.
Revenons un instant au Nord Kivu où les habitants du groupement Dikobo dans le territoire de Walikale expriment le souhait d'avoir une zone de santé pour accéder aux soins de qualité. C'est confié en Radio Okapi ce dimanche à Goma. Un notable du coin affirme que les habitants parcourent environ 250 kilomètres pour aller se faire soigner à Pinga. À Goma, une correspondance de Sifa Maguru.
D'après Mouindo Mouemeri, notable d'Ikobo, un grand nombre de la population de Kisimba, Ikobo et Munjowa est affecté par ce problème de manque d'accès aux soins de qualité. Il ajoute par exemple qu'un habitant de Bouleoussa doit marcher pendant 3 heures pour atteindre le centre de santé de référence à Pinga, soit pour se faire opérer ou pour des soins particuliers. Selon lui, une vingtaine de structures de santé locales, dont les Ikobo, ne sont pas approvisionnées en médicaments et matériel nécessaires guerre à cause de la distance. Les conséquences sont nombreuses, notamment des malades et femmes enceintes qui décèdent en cours de chemin, déplore Muindo Muemeri.
Ikobo, c'est un groupement situé à plus de 250 km de Pinga jusqu'à Ikobo. La population souffre, mais par manque d'assistance médicale. Les vaccins peuvent même faire 2 mois au niveau de Pinga, ça qu'elle nous est atteint, faute de route.
Les chefs des divisions de la santé au Nord Kivu ne confirment pas toutes ces informations. Pour le docteur Janvier Kubuya, les autorités sanitaires vont étudier la question et voir dans quelle mesure améliorer les soins que reçoit la population dans cette partie. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
On passe au Lualaba où la cité de Tenke, dans le territoire de Luboudi et dans les Noirs depuis plusieurs semaines. C'est suite au vol des fils caténaires à partir desquels la zone est alimentée en électricité. La société civile déplore le fait que les voleurs qui sont arrêtés soient souvent relâchés après. Radio Okapi Lubumbashi, Jean Gandou.
Le vol des fils caténaires le long de la voie ferrée plonge les cités de Tenke, Kansenya et même de Luboudi dans le noir. Conséquence, sur le plan économique, certaines activités tournent au ralenti. Cette situation oblige certains opérateurs économiques à recourir aux groupes électrogènes, ce qui implique de nouvelles dépenses pour l'achat de carburant. Il en est de même des structures sanitaires. Le délégué administratif de Tenke, Jean-Claude Kalasamu Kandabantou, affirme que le manque d'électricité favorise aussi l'insécurité. Le vol des fils caténaires empêche également aux trains électriques de la SNCC d'être opérationnel sur cet axe, ce qui fragilise davantage les activités économiques et les mouvements des populations de cette agglomération du territoire de Luboudi. En même temps, la société civile s'inquiète du fait que les voleurs de fils caténaires qui sont arrêtés par les services de sécurité, une fois déférés devant la justice, sont vite libérés. D'où cet appel de Jean-Claude Kalasamu Kandabantou.
Le fait de relâcher certains qui ne sont pas jugés, ça met un peu en insécurité aussi les agents qui sont en train de faire ce travail. Nous demandons c'est que justice soit faite publiquement, en foraine, pour aider un peu à décourager cela. Nous demandons aussi à nos députés de Lualaba de suivre un peu ces dossiers aussi, pour qu'on essaie un peu d'accélérer ces processus de jugement. Et ça va beaucoup plus soulager notre population.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la fin ce week-end à Kindu au Maniema, des journées scientifiques organisées par l'Université Mapon. 45 intervenants du secteur public et privé, mais aussi des chercheurs ont parlé des défis liés à la recherche innovante, à l'environnement, mais aussi au développement durable. Le compte-rendu à Kindu de Florence Kizalunga.
À la fin de ces assises, plusieurs résolutions en termes de recommandations ont été formulées par les participants, comme certaines sont énumérées ici par Eno Kabakombo, secrétaire administratif de l'université Mapon.
Recycler les professeurs, chefs de travaux, assistants, c'est l'utilisation de nouvelles technologies d'information et de la communication, organiser des cours de formation par compétences pour l'énergie, augmenter la puissance de la centrale hydroélectrique de Luchurukuru et enfin équiper les laboratoires des machines pour de l'université Mapon, stabiliser les institutions politiques provinciales, élaborer un plan stratégique de développement de la province du Maniema, améliorer la desserte en eau par le renouvellement des équipements de la région des eaux.
Le gouvernement provincial promet l'adoption de ces recommandations dans le prochain conseil des ministres. Samba Mwana Samba, ministre des médias.
Le gouvernement provincial du Maniema vous remercie très sincèrement pour les résolutions adoptées. Il formule les vœux de voir les organisateurs, les lui transmettre en vue de leur adoption par son conseil des ministres, suivi de la traduction en termes d'activité dans son budget 2022 en cours d'élaboration.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Israël va bâtir bientôt 1355 nouveaux logements pour des colons juifs en Cisjordanie occupée. La nouvelle est annoncée ce dimanche après-midi par le ministre de la Reconstruction dans un communiqué cité par l'AFP. Barack Obama revient sur les devants de la scène pour soutenir le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, un État conservateur. Lors des meetings tenus ce matin, l'ancien président américain n'a pas hésité à qualifier les républicains de menaces dangereuses pour la démocratie. Il a appelé en même temps les électeurs à plus jamais se mobiliser. Ouverture ce dimanche à Berlin, en Allemagne, du sommet mondial de la santé dans un forum à format hybride. Cette édition 2021 qui ira jusqu'au mardi prochain réunit autour de la table des experts scientifiques, politiques, de la société civile et du monde des affaires venus des 100 pays. C'est l'un des forums stratégiques internationaux en cette période où la pandémie du coronavirus fait des ravages à travers le monde.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de la FAO au Sud Kivu, Salif Djiré, parle du projet de développement exécuté depuis 2018 avec le PAM et l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition et la résilience des organisations paysannes de Minova dans le territoire de Calais au Sud Kivu. Il s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Salif Djiré, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, le projet porte sur quoi exactement?
Bon, comme on l'a si bien dit, le projet, quand même, c'est un projet qui unit les trois agences des Nations Unies, à savoir le PAM, l'UNICEF et la FAO. Il y a différents volets où on a la productivité, assurer quand même une bonne productivité des productions agricoles et puis relever des défis de l'amélioration des moyens d'existence. Également, assurer un accès aux services sociaux de base qui est un élément important et également un autre volet qui va dans le sens de l'amélioration de la cohésion et la construction de la paix.
Nous sommes ici dans le village de Boulenga, dans le groupement de Bouzi, et tout le long de la route, nous avons vu des cantonniers. Vous nous aviez dit que ce sont des bénéficiaires de ce projet de résilience. Comment ça se fait?
À travers une certaine activité que nous appelons FFA, qui veut dire travail pour de l'argent, c'est-à-dire que les producteurs ou les communautés elles-mêmes assistent à leur développement en contribuant par du travail qu'ils font, moyennant une certaine rémunération qu'on leur donne. Ça peut être des travaux pour l'aménagement, la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, mais également des activités de reboisement, des activités également d'aménagement des marais agricoles.
Que vise ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'impact même de ce projet de résilience?
Pour parler d'impact, c'est quand même un peu à long terme, mais déjà on a des éléments positifs qui sont visibles à l'ONU, parce que vous savez déjà, on a essayé quand même d'améliorer la production. Il y a plus de 500 hectares qui ont été aménagés par la FAO pour les marais qui ont été drainés. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons aussi distribué plus de 30 000 outils aratoires aux producteurs et nous avons formé plus de 375 producteurs OP qui sont là pour travailler dans les cadres vraiment d'améliorer la productivité, mais également d'assurer une bonne continuité des activités champêtres tout en tenant compte de leurs besoins, mais également de l'accès au marché et améliorer également la nutrition au sein des communautés. Vous avez vu le balai des visiteurs. Quand vous voyez, il y a différents ambassadeurs qui ont commencé à venir. Vous voyez aujourd'hui, c'est la présence de son Altesse, la princesse Sarah. Et vous allez voir aussi également très prochainement la visite de KfW, qui est quand même la banque à travers laquelle la coopération allemande finance ce projet. C'est pour vous dire que tous les bailleurs qui ont eu à fouler le pied les zones du projet sont satisfaits. C'est déjà un élément très important.
Vous parlez d'activités champêtres, quoi. Est-ce que vous aménagez aussi des greniers communautaires ou des marchés communautaires?
Comme c'est un projet conjoint, le PAM assure vraiment la construction des greniers communautaires. On a des complexes, on a des abris d'unités de transformation, on a également des boutiques d'intrants qui permettent aux communautés d'être organisées d'abord en OP, organisation paysanne. Ensuite, elles vont être formées, transformées en union d'organisation paysanne, ensuite en coopérative. Ce qui permet vraiment de professionnaliser le secteur, mais également d'assurer une bonne continuité, une bonne coordination des activités agricoles en milieu rural.
Qu'est-ce qui a justifié la mise en œuvre de ce projet dans ce territoire de Calais?
Bon, nous savons que ce territoire, quand même, il est vaste, même si on sait que on est en train d'atteindre 15 000 bénéficiaires dans cette zone à travers ce projet, c'est 15 000 ménages qui vont être atteints. Parce que c'était une zone quand même assez vulnérable, due quand même à des conflits. Vous avez vu récemment les déplacements des communautés dus au volcan au nord Kivu. Donc, c'est des activités qui nous ont poussé à penser à contribuer au développement de cette communauté, mais également à renforcer leur résilience pour qu'ils puissent faire face aux défis que nous sommes en train de relever ensemble.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ce proverbe de Confucius résume assez bien le projet conjoint de résilience.
Je pourrais dire très bien, même dans la mesure où nous sommes dans un domaine de résilience qui nécessite quand même de la préparation, du fait qu'il y a beaucoup d'aléas autour de nous, beaucoup de difficultés d'accès aux différentes ressources, que ce soit à la terre, aux semences, aux intrants, mais également des difficultés d'organisation, d'accès au marché. Ce qui nous pousse à dire que cette résilience va être un combat de longue haleine où il faut vraiment apprendre soi-même à s'envoler.
Je vous remercie.
Merci également à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de la FAO Sud-Kivu, Salif Djiré, parlait du projet de développement exécuté depuis 2018 avec la participation du PAM et de l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition sévère dans le territoire de Minova au Sud-Kivu. Il s'entretenait avec Cynthia Bachizi Nabizana. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez ce journal sur www.radiokepi.net.